On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. On va lire ce matin plusieurs textes. Juste un texte d'introduction dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au champ, au sang, excusez-moi, et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le week-end de la Toussaint et qu'il est beaucoup question de la mort. Les cimetières fleurissent en ce week-end pour, en mémoire des défunts, de ceux qui sont partis. Aussi, ce matin, j'aimerais aborder ce sujet avec vous. Et plus exactement, on va aborder, alors, le sujet de la mort est très vaste, mais j'aimerais aborder particulièrement le chrétien face à la mort. Le chrétien face à la mort. On pourrait aussi aborder le non-chrétien face à la mort, puisque, en fin de compte, nous verrons un texte tout à l'heure, nous y allons tous, hein, à moins que Jésus revienne. À moins que Jésus revienne avant que nous soyons mis au tombeau. Mais en tout cas, on y va tous, chrétiens ou pas, et quand on n'est pas dans la foi, bien sûr, l'attitude face à la mort est totalement différente. Il y a une crainte pour certains qui peut s'exprimer d'une manière plus ou moins intense, d'ailleurs. Certains, ça les terrorise, d'ailleurs. La Bible appelle la mort la reine des épouvantements, hein. La reine des épouvantements, le dernier ennemi aussi. Donc il y a beaucoup de craintes, un peu comme ce jeune homme riche dans la Bible qui vient vers Jésus et qui le supplie, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Donc on voit bien qu'il se posait des questions, mourir, oui, mais après. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Il y a beaucoup de craintes que génère la mort. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et si beaucoup de personnes aujourd'hui font tout et n'importe quoi, ils vivent une vie à 100 à l'heure, parce qu'ils veulent vivre au maximum tant qu'ils sont en vie, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc la mort génère des craintes, ou parfois certains ils sont complètement insouciants. À l'exemple de ce riche insensé dans la parole. La parabole que Jésus donne du riche et du mauvais riche et de Lazare, le mauvais riche menait une joyeuse et brillante vie dans l'insouciance complète, mais en tout cas ce ne sont pas ses richesses qui lui ont, épargné cette mort, puisque le riche est mort comme le pauvre est mort, seulement lui qui n'avait eu aucune crainte de Dieu et qui n'avait eu d'égard pour personne, s'est retrouvé tourmenté après sa mort, tandis que le pauvre Lazare, lui, a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, merci Seigneur pour cette espérance qu'il met dans nos cœurs. Et puis, bien sûr, ce qui va nous concerner, nous, ce matin, c'est le chrétien face à la mort. Il y a différentes manières de mourir, on ne va pas s'y attarder. Il y a la mort qu'on voit venir parce qu'on est gravement malade. Et petit à petit, la maladie nous ronge et on se voit diminuer jusqu'au point de mourir, d'être aux portes de la mort. Et là, c'est vrai que quand on voit venir la mort à ce moment-là et qu'on a des mois comme ça de maladie, ça permet beaucoup de réfléchir à sa vie, quelle a été cette vie. Et puis, il peut y avoir des pensées, des sentiments qui vont naître dans le cœur. Il y a aussi la mort de ceux qui vivent un drame, une mort accidentelle qui n'était pas programmée, j'allais dire, mais sauf qu'elle est toujours programmée dans le ciel, nous le savons, parce que personne ne peut rajouter une seule coudée à sa vie. Dieu maîtrise tout, nous ne maîtrisons pas, nous pouvons avoir un accident de voiture ou autre accident et puis mourir sans que cela, on ne l'ait envisagé. Mais en tout cas, quoi que nous fassions, nous savons que nous sommes sous le contrôle du Seigneur. Il y a donc différents moyens, j'allais dire, de mourir, et on pourrait encore ajouter à la liste bien des circonstances. Et puis, il y a ceux qui meurent aussi dans leur sommeil. J'ai connu un frère en Christ comme cela, un ancien de l'Église d'ailleurs, et un frère très joyeux. Il était à la réunion de prière du mardi soir avec son épouse, toujours fidèle à lui-même, plein de joie. Et puis on s'est salué à la fin de la réunion. Et le lendemain matin, il était environ très tôt le matin, je ne sais plus à quelle heure le matin, son épouse me téléphone, me dit « Mon mari est mort cette nuit, en dormant. » Vous ne pouvez pas présager. On l'avait vu la veille au soir à la réunion de prière, priant le Seigneur dans la joie, et il est mort. Bien sûr, son épouse qui était dans la foi a été remuée de ça, elle ne s'y attendait pas. Et il y a la mort, notre propre mort, notre réaction, nous, face à la mort, mais aussi quand un proche, un très proche, meurt, c'est aussi notre réaction, là, face à la mort de quelqu'un qui nous est proche. Être dans la foi n'exclut pas le fait que face à la mort, nous nous posions des questions et que même on soit quelque part, comprenez bien, dans la crainte. Je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu, c'est celui de David. David, nous le savons, est un homme de foi, un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, même il est écrit, un homme qui a écrit bon nombre de psaumes, des psaumes même qui sont prophétiques à l'égard de Jésus. Et cet homme de foi a été plusieurs fois confronté à la mort. Et parfois même, il pensait mourir. Et c'est intéressant de noter quelles furent les réactions de David face à cette mort. Alors, on ne va pas lire tous les passages, mais on va en lire deux ou trois. Tout d'abord, dans le psaume 18. David, le premier verset nous donne le contexte dans lequel David a écrit ce psaume, qu'on retrouve d'ailleurs dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22. Donc, on peut lire le verset premier. « Au chef des chants du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Alors lisons bien à partir du verset 5. « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Oui. David a écrit ce psaume dans une circonstance tout à fait particulière. On le sait lorsque il a été pourchassé par Saül et qu'il a failli être mis à mort. on a vraiment, lorsqu'on lit le deuxième livre de Samuel au chapitre 22, on voit plus de détails. Et c'est à ce moment-là que David a écrit ce psaume. David, cet homme de foi, David qui a eu le courage d'affronter Goliath, alors que tout le peuple d'Israël était dans la peur. Mais cette peur était générée par quoi ? Est-ce qu'elle était générée par Goliath ou par le fait que Goliath pouvait les mettre à mort ? C'est ça, en fin de compte. Goliath pouvait les mettre à mort et c'est ça qui, en fin de compte, les terrorisait. Mais David s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu, et n'a pas eu peur de ce géant Goliath, ni de tout ce qu'il pouvait faire. Et nous savons comment il l'a terrassé au nom de l'Éternel. David était aussi un homme de guerre. Et quand on fait la guerre, on peut s'attendre à mourir. Et il est parti plusieurs fois en guerre. Avant même cet épisode-là, David a combattu contre les Philistins à tel point qu'on chantait les exploits de David, ce qui a provoqué la jalousie du roi Saül à l'époque. Mais lorsque cet homme de foi, cet homme qui avait placé sa confiance en Dieu depuis tout petit, cet homme qui n'a pas eu peur du géant Goliath, cet homme qui n'a pas eu peur des armées des Philistins, s'est retrouvé pourchassé par Saül et il ne voulait pas combattre contre Saül. Et il ne voulait pas porter la main sur lui parce qu'il le reconnaissait comme étant loin de l'Éternel, celui qui avait été loin par Dieu pour être roi. Et à ce moment-là, David écrit « Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Vous voyez que David n'a pas la même réaction à ce moment-là. Il y a dans certaines circonstances de notre vie où nous sommes vraiment en paix, nous sommes dans la confiance, nous sommes dans l'assurance, mais il y en a d'autres qui nous déstabilisent même dans notre foi. Il y a certaines circonstances où notre confiance est vraiment mise à l'épreuve, où notre foi en Dieu est vraiment mise à l'épreuve. Mais ce qui s'est passé, c'est que David est ressorti plus fort de cette épreuve. Il est ressorti plus fort dans sa foi. Lisons le psaume 23 au verset 4. David écrit, le même David, écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi il ne craint aucun mal ? Il donne la raison pour laquelle. « Car tu es avec moi. » Tu es avec moi. David ici est dans la confiance. La mort plane, l'ombre de la mort est là. Donc il y a devant lui une possibilité de mourir. Et comme parfois nous pouvons l'avoir dans notre propre vie, parce que nous sommes sous le coup d'une maladie peut-être, et sans miracle, cette maladie va nous amener à la mort. C'est l'ombre de la mort qui est là. La mort plane à ce moment-là. Mais comment expliquer que quelqu'un soit dans la paix ? Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Nous savons que notre Seigneur Jésus est celui qui est avec nous. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous l'avons lu tout à l'heure dans notre verset d'introduction. Et si nous sommes aujourd'hui dans la paix, s'il a chassé nos craintes, c'est parce que nous savons qu'il a vaincu la mort. Alléluia. C'est lui, Jésus, qui a autorité sur la mort. Même si parfois il est vrai que nous pouvons être déstabilisés par certains événements et que cela nous secoue dans notre propre cœur et cela nous amène, nous aussi, à nous repositionner dans notre foi par rapport au Seigneur. Mais ça dure quelque temps. Notre foi, eh bien, notre cœur, j'allais dire, se ressaisit parce que nous regardons au Seigneur Jésus et que nous mettons notre confiance en lui. David, bien des années après, alors qu'il est vieux, on sent David apaisé dans le premier livre des Rois, au chapitre 2. Chapitre 2, verset 1er. David, approché du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » Puis après, il donne encore d'autres recommandations. Ici, dans la façon dont c'est écrit et la façon dont David parle à son fils Salomon, on sent que David est apaisé. Sa vie est accomplie, il le sait. L'apôtre Paul, aussi à la fin de sa vie, le sait que son départ approche. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Qu'il soit roi ou qu'il ne le soit pas, c'est le chemin par lequel nous devons tous passer. C'est le chemin de toute la terre. Cet homme a marché avec Dieu. Cet homme a mis sa foi en Dieu. Il peut faire aussi le bilan de sa propre vie et transmettre quelque chose à son fils Salomon. Pas seulement l'héritage du royaume, mais il va donner aussi à son fils Salomon un héritage spirituel. Quand on lit les recommandations que David fait à Salomon, que ce soit ici ou comme dans le livre des Chroniques, on voit qu'il va lui transmettre quelque chose, un héritage spirituel, de la même manière que lorsque l'apôtre Paul sait que son départ approche, va transmettre à Timothée un héritage spirituel. Il va lui transmettre quelque chose. Nous savons que le Seigneur est celui qui maîtrise toutes choses. Dans le psaume 116, verset 15, il est écrit ceci, qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui le craignent. C'est que notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Mais il est écrit que notre mort aussi a du prix. Notre mort a du prix et nous savons que, eh bien, quoi qu'il arrive, le Seigneur contrôle toutes choses. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 13, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce n'est pas un drame de mourir. Pas un drame. Même si ça arrive d'une manière dramatique. Comprenez ce que je dis, hein ? Ce n'est pas un drame de mourir, même si ça arrive d'une manière dramatique. Ce qui serait un drame, ce serait mourir sans le Seigneur. Mais pour nous qui avons la foi en Christ, il est écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ce qui met notre paix dans notre cœur, c'est que nous sommes les uns les autres dans le Seigneur, dans cette vie, nous vivons dans le Seigneur, mais nous allons aussi mourir dans le Seigneur. La parole de Dieu nous parle de la mort des justes, dans le livre des Nombres, la mort des justes. Nous mourrons dans le Seigneur, que son nom soit béni. Le Seigneur a autorité sur la mort, en général. Dans le livre de l'Apocalypse, toujours, au chapitre 1er, verset 17, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. » Qui a l'autorité sur la mort ? Est-ce le diable ? Celui qui a autorité sur la mort, c'est Jésus. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, qu'il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Pourquoi ? Parce que Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Alléluia. Donc, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Tout à l'heure, notre frère Jonathan a introduit la Sainte Cène qui nous parlait de la mort qui a régné depuis Adam. Mais la mort a déjà perdu. Car Jésus-Christ est ressuscité et maintenant il apporte la vie à tous ceux qui ont mis leur foi en lui et une vie qui ne s'arrête pas ici-bas puisqu'il est question d'une vie éternelle. Que Dieu soit béni. Il laisse bien sûr la mort agir jusqu'au jour où il y aura un point final, même la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Que Dieu soit béni pour cette victoire, que Dieu soit béni. Et c'est pour cela que notre cœur aussi est dans la confiance. Il y a des représentations, surtout au Moyen-Âge, des peintures qui étaient là, des peintures qu'on pourrait appeler religieuses, qui mettaient en scène, vous savez, le diable avec une fourche et qui prenaient les personnes et les jetaient en enfer. Mais ce n'est pas le diable qui a cette autorité-là. Nous ne sommes pas appelés à craindre celui et ceux qui peuvent tuer le corps sans rien de faire de plus, mais nous sommes appelés à craindre celui qui a autorité sur nos âmes et qui peut la sauver comme la faire périr. Et le seul qui a cette autorité-là, le seul qui a ce pouvoir-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à craindre Satan et tout ce qu'il pourrait nous faire. Nous sommes appelés à agir dans la foi et nous sommes appelés à porter nos regards à celui qui a autorité sur la mort, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons honorer, c'est lui que nous voulons adorer, c'est lui que nous voulons craindre, que son nom soit béni. Alléluia. Alors c'est vrai qu'il serait plus avantageux pour nous de partir et d'être avec le Seigneur, comme dit l'apôtre Paul. Mais tant que nous sommes ici-bas, c'est que le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous. On pourrait lire encore un texte dans le livre de l'Apocalypse. Il y a plusieurs textes dans le livre de l'Apocalypse qui nous parlent de ce sujet. Au chapitre 6, verset 11... Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ils vont être mis à mort, mais c'est maîtrisé par le Seigneur, jusqu'à ce que fût complet. C'est le Seigneur qui sait, et c'est le Seigneur qui a cette autorité-là. Et notre mort est l'esprit pleinement contrôlé par le Seigneur. Le prophète Élisée est mort de la maladie dont il était atteint, malgré que ce fût un prophète. Oui. Il est mort de cette maladie dont il fut atteint. Quand c'est notre heure, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Le Seigneur sait toute chose. Nous le voyons avec la vie de certains hommes de Dieu. Pierre a été mis en prison, mais ce n'était pas son heure. Et il sait, parce que le Seigneur l'a averti, qu'il va, comme il l'écrit dans son épître, il va quitter cette tente subitement. Mais quand ce n'est pas son heure, ce n'est pas son heure. Étienne est mort assez rapidement, lapidé. D'autres apôtres ont vécu longtemps, comme l'apôtre Jean a vécu longtemps. Mais en fin de compte, tout cela est maîtrisé par le Seigneur. L'apôtre Paul écrit à plusieurs reprises, il parle de tous les dangers qu'il a vécu, et à un moment donné, il dit qu'il a été plusieurs fois en danger de mort. Plusieurs fois, lui aussi, l'ombre de la mort planait sur lui, mais ce n'était pas encore son heure. Et à la fin de sa vie, il dira ceci à Timothée, on peut lire dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. L'apôtre Paul sait que maintenant, c'est la fin. pour lui. Quelques années auparavant, il avait écrit aux Philippiens, vous pourrez lire ce passage aux Philippiens, on lira « J'ai le désir de m'en aller, et puis je sais aussi que par rapport à l'œuvre de Dieu, eh bien, j'ai le désir de rester parmi vous, parce qu'il sentait qu'il avait encore des choses à enseigner aux Philippiens, qu'il avait encore une mission qui n'était pas encore accomplie. Donc il savait, là, il était tiraillé entre ces deux désirs. Et il dira, bien sûr, ce serait beaucoup mieux que de partir et d'être avec le Seigneur, mais je sais que je vais encore rester encore quelque temps, parce que par rapport à l'œuvre de Dieu, il savait eh bien, que le Seigneur l'appelait à rester. Mais là, il sait qu'il va bientôt partir, et l'apôtre Paul est prêt pour ce grand voyage. Je ne sais pas si vous avez connu le frère, M. Burki, qui a été missionnaire, et notamment missionnaire à Madagascar. Lorsqu'il est décédé, j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'époque, et je connaissais un autre frère qui était missionnaire à Madagascar, qui m'a raconté ceci, puisque quelques jours avant sa mort, il a fait quelque chose de très étonnant. Mais ça s'explique. Le Seigneur avait mis dans le cœur de ce frère Burki, le jour où le frère Cizeron va décéder, quelque temps après, ça sera ton tour. C'est ce qui s'est passé. Et ils étaient par alliance de la même famille, puisqu'il était marié à une de ses filles. Et donc, on pourrait s'attendre, puisque Madagascar est pas loin de l'île de la Réunion, qu'ils prennent l'avion et aillent aux obsèques. Et cet autre frère missionnaire, qui était aussi ami avec nous, m'a raconté ceci quelques temps après. J'ai été très étonné, déjà, de ce qu'il n'aille pas aux obsèques. Je suis allé le voir. Et puis, il m'a dit, de toute façon, maintenant, il est mort, on ne peut plus rien pour lui. C'est pas la peine que j'y aille. Et puis, dans la discussion, après, il a fait rentrer dans son bureau et le frère Burki a dit, voilà, tu vois, ici, là, ce sont les archives de l'orphelinat. Ici, ce sont les archives de l'église. Ici, les archives de l'école biblique, parce qu'il y avait aussi une école biblique. Et il lui a montré, mais comprenez pas pourquoi il lui montrait tout cela. Il l'a compris après. En fin de compte, il était en train de lui transmettre tout ce qu'il savait, tout ce qui lui serait utile, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Et c'est ce qui s'est passé quelques jours après. Il est décédé. Dieu lui avait mis à cœur et il était prêt pour ce jour. On peut dire que c'est beau quand ça se passe comme ça, mais ça se passe bien sûr pas toujours comme cela. Mais c'est pour vraiment dire que le Seigneur contrôle toutes choses. Il peut nous avertir que ça va être le moment, comme il l'a fait d'ailleurs aussi pour le roi Ézéchias. Le Seigneur va l'avertir, Ézéchias va se mettre à pleurer et à prier, et le Seigneur va lui donner un sursis de 15 ans. Allez. Parfois, le Seigneur n'exauce pas ce genre de prière. Les chemins de chacun sont différents, mais le Seigneur contrôle toutes choses, et il nous accompagne jusqu'au bout. Et nous savons que, quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est quand c'est notre propre mort. Mais ce qui est le plus difficile, c'est quand c'est la mort d'un proche. Pour avoir fait de nombreux obsèques, j'ai remarqué des réactions très souvent très diverses et variées, par la foi, dans le cœur des frères et des sœurs en la foi. Il y a parfois des questionnements qui sont là, surtout quand on ne s'y attend pas. Des questionnements quand c'est un jeune qui décède, des questionnements quand la personne était un pilier de la famille et elle a « qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Vous savez, on peut se poser cette question. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir ? Le Seigneur a des solutions à toutes choses. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur n'abandonne pas les siens. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu, c'est la femme d'un fils des prophètes. Les fils des prophètes étaient des apprentis prophètes. Ils étaient là auprès d'un prophète et on le voit avec Élie et Élisée qui avaient, j'allais dire, ces stagiaires prophètes avec eux, qu'on appelait les fils des prophètes. Et à un moment donné, donc, cette femme va perdre son mari. Elle se retrouve sans rien, sans aucune ressource. Elle a deux enfants. Elle a deux enfants et elle va aller trouver le prophète en disant « Mais les créanciers sont venus !» Parce qu'ils avaient des dettes. Et à l'époque, c'était très simple. S'il y a des dettes et qu'il n'y a pas de revenus dans la famille, on prend vos enfants et on en fait des esclaves. C'est comme ça qu'on payait les dettes. Et c'est la menace. Et c'est vrai que le mari étant là, il pourvoyait aux besoins de la famille. Et quand le mari n'est plus là, on peut comprendre que certains se posent la question, qu'est-ce que je vais devenir ? Et c'est aussi une réaction face à la mort. On peut avoir, à un moment donné, être déstabilisé, comme tout à l'heure dans le psaume 18 que nous avons lu, parce que ça nous surprend, parce que voilà, sur le moment, on n'a pas de solution. Sauf que le Seigneur contrôle toutes choses. Et je n'ai jamais vu un enfant de Dieu manquer de quelque chose, même s'il est dans la pauvreté. Le Seigneur, puisqu'il contrôle la mort, et que personne ne peut rajouter une coudée à sa vie, même si la mort arrive d'une manière accidentelle alors que la personne est encore jeune, en charge de famille, puisque le Seigneur contrôle toutes choses, il contrôle l'après aussi. Il y a des choses qui nous échappent, des questionnements qui resteront là dans notre cœur. On sait que le Seigneur est fidèle et on ne comprend pas pourquoi un tel est mort alors qu'il était plein d'énergie, jeune, plein d'activités utiles à son entourage, à l'Église. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et dans cette incompréhension, il est vrai que parfois on pourrait même dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais. » On pourrait peut-être même douter de la fidélité de Dieu. Mais le Seigneur contrôle l'après aussi. Il contrôle l'après. Et le Seigneur bénit ses enfants. Et il connaît la limite de ses enfants. La limite que peuvent supporter ses enfants. J'aimerais lire avec vous dans Philippiens chapitre 2, verset 27. C'est l'apôtre Paul qui parle d'un de ses compagnons. Au verset 26, on peut même lire, « Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi. Afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Comprenons bien ici que l'apôtre Paul est dans une phase compliquée. L'apôtre Paul est en prison, avec tout ce qu'il a vécu. L'apôtre Paul a eu déjà beaucoup de tristesse de voir certains de ses compagnons le quitter. Et le Seigneur connaît les limites. Et il sait que si Épaphrodite meurt, la mort d'Épaphrodite va accentuer les tristesses de Paul et que là, c'est vraiment la limite que Paul peut supporter. Et pourtant, Paul en a supporté des choses. Quand on lit le parcours de Paul et tout ce qu'il a pu subir, mais là, on sent qu'on est aux limites de ce que peut supporter Paul. Si Épaphrodite meurt, peut-être que ça va être trop pour Paul. Mais le Seigneur contrôle toutes choses. Et il dira, non seulement il a eu pitié de lui, mais aussi de moi. On voit que le Seigneur, il sait doser les souffrances qui peuvent nous arriver. Nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces. Nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Le Seigneur connaît nos limites et il n'ira pas au-delà de toute manière. Et même si la mort frappe quelqu'un de proche, il pourvoira aussi. Nous savons qu'il est le consolateur. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il est mort sur la croix et ressuscité. Mais pour nous accompagner, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et pour revenir tout à l'heure à la femme de ce fils de prophète, qu'elle se retrouve seule avec ses deux enfants, les créanciers veulent les prendre pour en faire ses esclaves. On voit comment le Seigneur a pourvu d'une manière miraculeuse, puisque c'est là qu'il y a ce fameux miracle, de tous ces vases d'huile qui vont se remplir, alors qu'elle n'avait qu'un tout petit peu d'huile à la maison. On voit donc que le Seigneur est celui qui fait des miracles. Le Seigneur est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants, même lorsque la mort est là à frapper, lorsque quelque chose de dramatique est arrivé, même lorsque la tristesse est là, le Seigneur est toujours au contrôle de toute chose. Même si nous posons des questions, on ne comprend plus rien parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent, les voies de l'Éternel ne sont pas les nôtres, on les comprend après. Il y a même des choses qu'on ne comprendra jamais ici-bas, qu'on comprendra seulement quand on sera avec le Seigneur. Mais nous voulons garder cette confiance parce que le Seigneur est celui qui contrôle la mort de ses enfants. Alléluia. Nous savons que le Seigneur est celui qui tient toutes choses entre ses mains, que son nom soit glorifié. Alléluia. Quoi qu'il arrive, nous sommes au contrôle du Seigneur. Il a le pouvoir, c'est lui qui a ce pouvoir sur la mort. Alors nous voulons nous réjouir dans cette espérance qu'un jour il viendra nous chercher à son heure, que nous soyons cette génération qui connaisse le retour du Seigneur, peut-être, j'espère, ou que nous ne le vivions pas et que nous soyons mis au tombeau comme tout le monde. Eh bien, quoi qu'il arrive, de toute manière, nous sommes entre les mains du Seigneur et que son nom soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Nous voulons comprendre que le Seigneur nous a préparé une place dans la gloire. Il nous a préparé une place dans la gloire. Et un jour, nous serons ensemble pour célébrer son grand nom. Juste un dernier verset. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quel merveilleux verset qui remplit nos cœurs d'espérance et d'assurance. Il va essuyer toute larme de nos yeux. Il est même écrit que la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Elle a été engloutie. Et merci Seigneur, parce qu'il n'y aura plus de deuil, donc il n'y aura plus de personnes qui vont mourir et des gens qui seront endeuillés. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Nous serons pour l'éternité avec le Seigneur, dans la gloire avec lui, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour cette espérance que tu mets dans nos cœurs. Il est vrai que parfois, Seigneur, nous pouvons être déstabilisés, Seigneur, et nous poser tellement de questions lorsque quelqu'un décède auprès de nous, ou lorsque nous-mêmes, nous nous voyons partir, Seigneur. Mais nous sommes pleins d'espérance parce que c'est toi qui nous fais des promesses, et tes promesses sont oui et amen. Nous pensons, Seigneur, à tous nos bien-aimés, et puis aussi à ceux qui ne te connaissent pas, qui sont troublés peut-être en ce jour. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui apportent des fleurs dans les cimetières actuellement et qui sont sans espérance, qui se posent tellement de questions. Seigneur, je te prie de te révéler à eux, Seigneur. Toi le vivant, toi qui as pu dire un jour à ces femmes, « Seigneur, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Oui, Seigneur, tu es vivant, Seigneur. Nous te prions vraiment que ta vie gagne les cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu es ressuscité. La mort a été engloutie par ta vie, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous sommes entre tes mains, Seigneur. Et quand l'ombre de la mort plane au-dessus de nous, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, Jésus. Amen.